Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL en ce 1er mai. Elisabeth Martichoux, vous recevez le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans ce studio d'RTL à l'occasion de ce 1er mai. On reviendra sur cette fête du travail en ordre syndical dispersé. Mais d'abord, Force ouvrière, qui, par la voix de son nouveau patron, Pascal Pavageau, sur RTL dimanche, demandait un moratoire sur la réforme de la SNCF. C'est une bonne idée? Il faut que le gouvernement gèle la réforme?
Non, mais c'est pas crédible, d'abord. Oui, c'est pas crédible. Il y a 400 et quelques députés qui ont voté cette réforme, enfin, en tout cas les premiers éléments de cette réforme. Donc je crois que la démarche dans laquelle est engagée la CFDT et la CFDT cheminot, c'est plutôt de pousser nos propositions. Nos propositions, ça se résume à d'abord...
Attendez, juste une question, excusez-moi Laurent Berger. Vous dites que c'est pas crédible. Ça veut dire qu'on fait des propositions. La CGT, elle par exemple, demande carrément le retrait de la loi. Non, tout ça,
vous,
c'est pas crédible.
Vous m'interrogez, Mme Martichoux, sur ce qu'a dit M. Pavageau, oui, sur le fait, M. Pavageau, qui a la SNCF, la force ouvrière, en plus, n'est pas représentative.
Pas crédible, c'est-à-dire qu'il n'y croit pas lui-même?
Ben ça, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est que vous me demandez ce que je pense de ce moratoire demandé. Je dis que, alors que ça vient d'être voté par 450 députés, ce n'est pas crédible. Et que l'action syndicale, si elle veut être crédible, il faut qu'elle se positionne sur les vrais éléments.
Donc, il demande quelque chose qui n'est pas réaliste.
Mais je crois que c'est plus intéressant d'écouter ce que la CFDT a à dire sur la SNCF que de commenter ce que dit M. Pavageau.
Ce qu'elle a à dire sur la SNCF, c'est de dire... Jusqu'où peuvent-elles les revendications? Celle-là, elle n'est pas crédible.
Mais la revendication, c'est comment va se passer la reprise de la dette. Quelle négociation d'une convention collective demain dans le secteur du ferroviaire et pour les cheminots, parce qu'on leur annonce la fin du statut, quelle reprise des éléments du statut dans cette convention collective. C'est quel avenir du ferroviaire et quel investissement public pour faire du ferroviaire un vrai élément de la transition écologique. C'est ça les vrais sujets qui seront sur la table avec le Premier ministre qui nous reçoit lundi prochain.
Voilà, vous parlez du 7 mai, lundi prochain. Le Premier ministre a fait une ouverture, vous l'avez reconnu. Il reçoit tous les syndicats et vous dites c'est l'occasion de reprendre des discussions sur ces points-là, c'est-à-dire préciser des éléments qui restent ambigus, que le gouvernement veut laisser dans le flou.
Lundi, c'est l'occasion de parler sur le fond. Si c'est juste pour faire du bloc contre bloc, c'est-à-dire nos positions, c'est celle-ci, et on ne veut pas discuter, ça ne sert à rien.
Donc
moi, j'appelle le gouvernement...
Il y a un risque.
Oui, il y a un risque, comme à chaque fois. Il y a un risque que le gouvernement nous dise, voilà, on vous reçoit, et c'est juste pour vous dire ce qu'il faudrait penser.
Non, ce serait le contraire de ce qu'il faut faire.
Ce qu'il faut faire, c'est trouver les voies de sortie à ce conflit. Les voies de sortie à ce conflit, c'est rassurer les cheminots sur ce que va être le cadre social dans lequel ils vont évoluer demain. Et ça, aujourd'hui, c'est pas clair. Imaginez les cheminots, ils sont dans une situation où on dirait à n'importe quel salarié, votre accord d'entreprise, votre convention collective ne s'applique plus, mais on ne sait pas ce qu'il y aura demain pour vous couvrir.
C'est ça les ambiguïtés dont je parle. Il y a des trous dans la moquette, quoi. Il y a des choses que le gouvernement ne veut pas encore... On va prendre un exemple pour que ce soit précis. Par exemple, si un cheminot refuse de basculer chez un opérateur privé, il ne sait pas exactement quel sort lui sera réservé.
Voilà,
ça fait partie des points.
Oui, bien sûr, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, il faut qu'on se dise c'est quoi le droit de retour, quelle est la situation du cheminot. Alors, il y a des choses qui ont évolué sur l'ouverture, je l'ai même dit sur cette antenne, sur l'ouverture à la concurrence et la situation des cheminots, mais il faut aller plus loin.
Donc, ça veut dire que cette réunion, il faut la préparer.
Ça veut dire qu'il faut la préparer. Il faut que le gouvernement se prépare à répondre à un certain nombre de questions que vont lui poser les organisations syndicales et la CFDT cheminot.
Donnez-nous des éléments précis.
Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte le 7 avec des réponses à des questions qu'on pose. Et ils les connaissent très bien.
Vous avez des contacts avec eux? Le ministère des Transports vous appelle pour préparer cette réunion?
La CFDT cheminot a évidemment des contacts, comme toutes les fédérations cheminotes.
Comme toutes les fédérations, pendant la grève, les contacts continuent, ça c'est très clair. Si jamais ça n'était pas le cas, si jamais Édouard Philippe vous réunissait pour dire, bon ben voilà, on est arrivé au bout d'un processus, la loi est votée, maintenant rentrez chez vous.
Non, mais je crois que c'est pas la démarche qui est engagée, ou alors ce serait complètement idiot. On peut pas dire aux organisations syndicales, venez, on va discuter des éléments maintenant de mise en œuvre de cette réforme, et puis on veut pas vous écouter. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Et puis si c'est pas le cas, ben invitez-moi le 8, je vous dirai ce que j'en pense.
Eh ben voilà, vous êtes invité le 8 au matin. Sur la dette, un petit mot. Vous attendez quoi qu'Édouard Philippe dise le 7 mai? Ben voilà, on a dit déjà que ce serait à partir du 1er janvier 2020. demain, voilà la partie de la dette des 48 milliards qu'on est prêt à prendre à cette date-là.
C'est genre il faut que ce soit très clair sur le fait que l'État reprenne la dette de façon. Oui, non, mais ça va se faire comment ? Ça va se faire comment ? C'est important. Bah, est-ce qu'on va la laisser dans une structure de dette au sein de la SNCF ou est-ce que l'État va la reprendre pleinement ? Vous savez, est-ce qu'on va continuer à le faire peser sur l'entreprise ou est-ce que on va considérer que c'est une dette publique, c'est une dette de l'État et on va la gérer en tant que telle. Il faut ces précisions.
Donc savez, un calendrier et ce oui, que vous, et, en fait, vous mettez
et la façon dont et la façon dont ça va s'opérer cette reprise de dette.
Donc ça vous l'attendez aussi le 7 mai.
Oui bien sûr.
Vous attendez des précisions.
Veulent, hein.
Je voudrais qu'on parle aussi puisqu'on est dans le domaine des transports, il y a des conflits sociaux. Vous avez dressé un réquisitoire dimanche, c'était chez nos confrères d'Europe 1. Quand même assez qui n'était pas à piquer des hannetons, comme aurait dit ma grand-mère, contre un syndicat, le syndicat SNPL, qui est en pointe dans le conflit qui paralyse la compagnie. J'aimerais vous citer, pour ceux qui ne vous ont pas entendu, le SNPL entraîne Air France vers le fond. Son président, Philippe Évin, se prend pour le leader Maximo. Il veut emmener tous les personnels du sol avec lui, qui vont payer la facture à la fin.
Oui, je persiste et signe. Dimanche, j'ai juste dit qu'il prenait en otage et je retire cette métaphore qui n'est pas bienvenue dans le contexte. Mais pour le reste, je persiste et signe sur le fond. Je dis que ce syndicat, qui est un syndicat ultra catégoriel, seulement les pilotes de ligne, et ne représente pas tous les pilotes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un syndicat de pilotes, par exemple CFDT, mais le syndicat majoritaire, ce syndicat de pilotes, il instrumentalise les personnels au sol pour essayer d'avoir des avantages supplémentaires pour les pilotes. Et dans un moment où la compagnie Air France est en grave difficulté. Et moi, je le dis, je sais comment ça se finit dans ces cas-là. C'est on va accorder des avantages à ces pilotes et on va avoir des plans de restructuration pour le personnel au sol.
On va sacrifier le risque. Les personnels au sol.
Le risque, c'est ça. Et la façon dont le SNPL et son secrétaire général... Moi, je considère que ce n'est pas vraiment un syndicat. Je considère que c'est plutôt une corporation. C'est plutôt un ordre professionnel tel qu'il se comporte. Eh bien, ils n'ont pas de solidarité interne avec le personnel au sol. Et donc, je crois que cette compagnie, elle est en grave danger parce qu'il y a un jusqu'au boutisme d'une corporation qui entraîne la compagnie vers le fond. Je persiste et signe.
Donc, vous dites, ce syndicat n'est pas un syndicat. C'est quoi ? C'est un archaïsme ?
Ils
se battent pour leur salaire. Ils demandent 5% d'augmentation tout de suite.
Oui, mais si vous regardez bien, ils demandent 5% d'augmentation, mais ils demandent 5% plus 4% en plus pour les pilotes. C'est-à-dire qu'on est dans... Oui.
Si 5 vous... plus 5
Plus 4 et quelques, 4,7. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une entreprise qui est finalement mise en difficulté parce qu'il y a un responsable syndical dans un syndicat de pilotes, qui est uniquement un syndicat de pilotes, qui prend à témoin l'ensemble du personnel en leur faisant croire qu'il se bat pour eux. C'est pas vrai. Je le dis au personnel au sol, la CFDT, elle est première organisation au sol, hein. Je le dis, si vous suivez la stratégie mortifère du SNPL, c'est votre compagnie et donc vos emplois qui vont être en difficulté.
Ça vous met en colère, ça. C'est scandaleux. Comment
Oui, parce que j'ai du mal à entendre que c'est une vision syndicale. Vous savez, moi, je suis profondément attaché à l'intérêt général et à l'intérêt des salariés. C'est ça qui est ma boussole aujourd'hui. Et je crois que là, on a une logique ultra catégorielle qui est suivie par quelqu'un qui est jusqu'au boutiste et qui emmène les salariés et une entreprise dans le mur.
Le fameux leader, Maximo, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Donc, vous dites au personnel au sol, votez oui au référendum du patron.
Vous savez, ce référendum, nous en sommes pas fans. Mais
non,
on est dans une situation de blocage. Oui, mais là, il y a un profond. Pour négocier dans une entreprise, il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. Là, il y a manifestement du côté des pilotes, pas de la volonté de le faire. Enfin, en tout cas, des SNPL. Je distingue bien par rapport aux pilotes. Ce n'est pas tous les pilotes. Mais le SNPL ne veut pas le faire. Il y a la stratégie qui a été suivie par M. Janaillac de référendum. On n'en est pas fan. Mais puisque maintenant on est face à cette situation, la CFDT, très clairement, oui, appelle à Air France à voter oui.
Vous dites que ce n'est pas ma façon de faire du syndicalisme. Très clairement, pour le coup, on a compris. Mais Pascal Pavageau, votre homologue de Force ouvrière, dit « Mais si, il faut mettre du rapport de force. Moi, je suis pour le rapport de force et donc je soutiens cette action du SNPL. »
Oui, mais moi aussi, mais je l'ai entendu aussi, M. Pavageau. Il dit « Oui, mais puisque c'est une grève, c'est bon. » Mais moi, je n'ai pas cette analyse. Tout combat, le combat, il est bon sur le sens qu'il a. Et moi, je soutiens les grèves lorsqu'elles sont légitimes. J'ai soutenu la grève des salariés de Carrefour le 31 mars dernier parce qu'ils voulaient manifester contre un plan de licenciement. Et depuis, ils ont discuté, ils ont négocié. Je soutiens les salariés de Sceaux Local, les ex-pages jaunes qui sont en menace d'emploi parce qu'ils veulent ne pas se faire licencier, ils veulent des mesures d'accompagnement des salariés. Mais quand c'est pas légitime. Encore, ce n'est pas juste au sens où la justice que l'on porte quand on est une organisation syndicale.
Vous condamnez voilà, cette logique du rapport de force systématique
non, le rapport de force, c'est normal, c'est là-dessus qu'on est. Le rapport de force, il s'opère par la qualité des propositions, par la capacité d'entrer dans la négociation
mais pas
et par, la grève lorsque c'est nécessaire. Mais toute grève n'est pas, ne justifie pas. Celle des pilotes, aujourd'hui, je le dis, elle entraîne les personnels au sol. Dans le mur.
Un mot du départ de Jean-Claude Mailly, vous avez quand même travaillé avec lui pendant 6 ans. Il a été 14 ans, lui, à la tête de Force Ouvrière. Vous avez forcément tricoté des relations personnelles avec Jean-Claude Mailly. Vous êtes triste ou un peu peiné de la façon dont il a été, dont il a quitté le congrès la semaine dernière, à moitié applaudi seulement, violemment critiqué par ailleurs?
Oui, d'abord, il y a un débat démocratique dans chaque organisation. C'est normal qu'il y ait des divergences qui s'expriment. Mais oui, je lui ai écrit, je le dis, je l'ai encore eu au téléphone hier. Je crois, oui, que ça se respecte un peu. Quelqu'un qui a donné 14 ans de sa vie pour mener une organisation, c'est pas tous les jours un chemin de rose. Je pense que, voilà, il mérite du respect. Et c'est pas ce qui a fait son organisation, en tout cas une partie de son organisation et son successeur. C'est comme ça, ça les regarde. Mais en tout cas, humainement, je lui ai témoigné de la sympathie, oui.
Vous vous sentez méprisé par Emmanuel Macron en tant que patron syndical ?
Méprisé, c'est pas forcément le terme. Mais en tout cas, je sens profondément que ce gouvernement, il pense que de façon unilatérale, tout seul, parce qu'il a la légitimité politique que je ne lui conteste pas, il pense qu'on peut réformer ce pays sans entraîner les corps intermédiaires avec lui.
Il veut faire avec vous, syndicats, ce qu'il a fait avec les partis, c'est-à-dire exploser le syndical.
En tout cas, il veut montrer qu'il représente, le tout des intérêts des Français. Son gouvernement, sa majorité, et faire fi des corps intermédiaires. Et c'est vrai dans le champ du social avec les organisations syndicales, c'est vrai dans le champ sociétal sur les questions de la pauvreté, d'immigration ou autres sujets.
Il néglige ?
Oui, il néglige les associations, les organisations syndicales qui, au quotidien, sont investies pour faire avancer des
Laurent
idées.
Laurent Berger, observé ses prédécesseurs qui ont beaucoup traité les intermédiaires, comme vous dites, les corps intermédiaires, et qui, selon lui, n'ont pas su assez réformer. Il vous considère comme des freins à la réforme. Il a tort ?
Oui, il a tort, bien sûr qu'il a tort. Il ne s'est rien passé ces 30 dernières années. Il ne s'est rien passé.
Parce que
vous
savez, pas assez les Français,
oui, mais vous savez, si vous regardez bien Mme Martichou, peut-être qu'il considère les médias aussi comme étant des empêcheurs
mais
de tourner en rond.
Absolument.
Vous savez,
on
si vous poursuivez cette logique-là, c'est une logique assez verticale,
et pour autant,
avec un petit risque autoritaire. Oui, il a tort, bien sûr qu'il a tort. Une démocratie, c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose de précieux. Et il faut pour ça pouvoir écouter l'ensemble de ses composantes. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y a une forme de dérive autoritaire, une dérive personnelle, et je crois qu'il faut s'en préserver.
Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
La reprise de la dette, la nouvelle convention collective, les moyens pour l'avenir de la SNCF. Lundi, c'est l'occasion de discuter sur le fond. Il faut trouver la sortie du conflit à la SNCF, vient de nous dire Laurent Berger. Et à Air France, Laurent Berger dénonce une menace purement catégorielle du syndicat de pilotes SNPL, menace sur la compagnie elle-même. Et puis, on notera que le secrétaire général de la CFDT relève un petit risque d'autoritarisme chez le président de la République. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.